Mes bien chers amis, à Saint-Joseph-d'Alma, lac Saint-Jean, 5000 écoliers ont eu des vacances inusitées au mois de février, parce que leurs 260 instituteurs et institutrices ont déclaré un arrêt de travail, une grève, quoi. La raison, ces enseignants n'avaient eu aucune paye depuis 8 semaines. Mais pourquoi donc la commission d'Alma ne payait-elle pas ses professeurs? Simplement parce que sa caisse était vide. Elle avait déjà un déficit de 500 000 $ qui allait devenir un déficit de 750 000 $ cette année. La banque ne voulait plus faire d'avance à une commission dans une telle situation. La commission scolaire d'Alma se tournait vers le gouvernement du Québec. À Québec, on répondait: vous avez déjà eu toutes les subventions auxquelles vous aviez droit au terme de nos règlements. Trouvez plus d'argent chez vos contribuables. Augmentez le taux de la taxe scolaire. La commission scolaire a fini par céder. Sans demander aux propriétaires si ça leur faisait bien plaisir, elle a porté la taxe scolaire à 1,35 $ dans le 100 $ d'évaluation. Tout de suite, démarche du gouvernement auprès de la banque pour que le crédit soit restauré. Le gouvernement devenait caution. Avec une avance de la banque, chèque aux professeurs. Fin des vacances de grève. Retour à l'école le vendredi 22 février. Le cas d'une caisse vide en face d'obligations pressantes n'est pas l'exclusivité de la commission scolaire d'Alma. La plupart des commissions scolaires et des municipalités aussi tirent la langue. D'autres corps publics également. Et les familles donc, même si elles n'attirent pas autant l'attention que les corps publics, tout en souffrant plus que eux dans leur chair même. Le gouvernement provincial est au courant de la situation désespérée des commissions et des conseils municipaux. En 1960, le gouvernement Lesage nomma un comité interministériel pour étudier le problème. Et le problème est toujours là. Le comité est maintenant remplacé par une commission d'enquête sur la fiscalité. Pour faire quoi? Pour tâcher de découvrir des moyens plus efficaces, si possible, de financer les gouvernements en dévalisant les individus. Mais de quel problème, au juste, est-il question? Et pourquoi ce problème existe-t-il? Revenons au cas d'Alma. Dès que la commission se soumet au gouvernement en acceptant de hausser la taxe scolaire, la banque accepte d'avancer des fonds, un crédit à la commission. Et tout de suite, tout se règle. Il n'y a plus de problème. Les professeurs sont payés et ils peuvent se procurer de quoi vivre dans les magasins. C'est donc qu'il y avait déjà dans le pays tout ce qu'il faut pour faire vivre les professeurs. La hausse de la taxe foncière n'a pas augmenté d'une seule unité les troupeaux des cultivateurs. Elle n'a pas fait pousser un fruit de plus. Elle n'a pas produit une verge d'étoffe de plus. Tout cela existait bel et bien et n'attendait qu'un crédit. Des chiffres inscrits du bon côté dans les livres de la banque pour passer les produits des fermes ou des entrepôts ou des étagères du marchand dans les maisons des professeurs. Le problème n'était donc pas du tout un problème de possibilité réelle. C'était un problème créé artificiellement par le manque de chiffres ayant le pouvoir de faire bouger les produits et les services. Ces chiffres qu'on appelle argent. Voici bientôt un demi-siècle que l'artificiel de ce problème est étalé devant le monde. Plus d'un quart de siècle dans notre pays. Et en même temps, le moyen de faire disparaître cet artificiel malsain, le moyen d'enlever l'obstacle purement financier aux belles réalisations plus facilement possibles, ce moyen-là est aussi exposé au public. C'est l'enseignement du crédit social. Nous ne parlons pas ici du parti qui porte le nom de crédit social et qui peut être n'importe quelle bougie que les politiciens du parti veulent faire. Nous parlons de l'enseignement de Douglas, le fondateur de l'école créditiste. Quand l'école créditiste traite de crédit, elle fait une distinction entre ce qu'elle appelle le crédit réel et ce qu'on appelle le crédit financier ou l'argent. Le crédit réel, c'est la capacité de produire ce qui répond aux besoins. C'est la capacité de produire de la nourriture, des vêtements. C'est la capacité de bâtir des maisons pour les familles, des écoles pour recevoir les enfants, des églises pour assembler les fidèles, des routes, des chemins de fer pour les voyages et le transport. C'est la capacité de trouver des professeurs pour instruire les écoliers. C'est la capacité de produire les choses que les professeurs consomment, mais qu'ils ne produisent pas eux-mêmes. Il s'agit bien là de réalité, de choses réelles, de réalités dont l'existence ne fait pas de doute. Des réalités qui font qu'on préfère le Canada à un désert, qui font qu'on a la confiance de pouvoir vivre convenablement au Canada. Cette base de confiance existait déjà quand les premiers colons vinrent de France. Ils ne seraient pas venus sans cela. Et cette base de confiance, cette capacité de produire ce qu'il faut pour les besoins, ce crédit réel est immensément plus grand aujourd'hui. Par contre, il y a le crédit financier, l'argent, qui consiste essentiellement en chiffres légalisés, des chiffres gravés sur des pièces d'or, on n'en va plus, sur des pièces d'argent, de cuivre, de bronze, ou de nickel, ou quoi encore, ou bien des chiffres imprimés avec des figurines et quelques phrases sur des rectangles de papier, on appelle ça papier monnaie, ou bien, pour la plus grande partie, ce sont simplement des chiffres inscrits par les banquiers dans leurs livres quand ils font des prêts à des emprunteurs, emprunteurs privés ou corps publics. Ce sont justement ces chiffres-là qui ont permis à la commission scolaire de Saint-Joseph-d'Alma de payer ses professeurs. Ces chiffres de crédit financier, ce ne sont pas des réalités, c'est simplement l'évaluation en chiffres de réalités qui existent déjà, ou de production facile à faire quand ces chiffres viennent à point pour tirer sur la capacité de produire du pays. Dans le cas d'Alma, comme dans la multitude d'autres cas semblables, le crédit réel n'a jamais fait défaut une minute. Mais ce qui faisait défaut, c'était l'artificiel, les chiffres pour exprimer le crédit réel, les chiffres pour mettre en œuvre la capacité de produire, la capacité d'enseigner, la capacité de faire vivre les enseignants. Mais n'est-ce donc pas là une situation lamentable que celle qui permet aux contrôleurs de l'argent et du crédit de mettre ainsi une entrave à la fonction du réel, une entrave à la production de biens, de produits ou de services qui répondent aux besoins de la population, des enfants ou des adultes? Si un pays est capable de produire tout ce qu'il faut pour faire vivre sa population, pourquoi, au nom du bon sens, pourquoi ne peut-il pas utiliser cette capacité de production qui lui appartient sans avoir à s'endetter pour l'usage d'une chose qui lui appartient? Si j'ai un cheval à moi, il me permet certainement d'emprunter de l'argent sur sa valeur, mais qu'est-ce qui m'empêche d'utiliser moi-même mon cheval quand elle est mon bon plaisir sans avoir à m'endetter envers personne? Et n'est-ce pas assez bizarre d'aller chercher des chiffres belges, français, anglais, américains pour mettre en œuvre le travail et les ressources naturelles du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, etc.? Pourquoi, par un simple jeu de chiffres, pourquoi avoir à payer à d'autres de la production qui est faite par des bras de chez nous à partir de matériaux de chez nous? Monsieur Le Sage étatise de l'électricité en disant que c'est pour que nous devenions les maîtres chez nous. L'électricité, si importante soit-elle, ne touche tout de même qu'à une partie de notre vie économique, alors que le contrôle de l'argent, lui, le système financier, touche à toute la vie économique, en gros et en détail, dans le général et dans le quotidien, dans le secteur public et dans le secteur privé. Or, M. Le Sage ne s'en inquiète pas. D'ailleurs, pour acheter les réseaux des compagnies, M. Le Sage commence par endetter sa province. Envers qui? Envers First Boston Corporation, Eisen Company Incorporated, Wood Gundian Company Incorporated, Dominion Securities Corporation, Harriman Ripley & Company, Smith Barney & Company, McLeod Young Weir Incorporated. Voilà bien une drôle de manière, n'est-ce pas, de rendre la population de l'État de Québec maîtresse chez elle. Et M. Johnson, le chef de l'opposition, lui demande de convoquer les États généraux pour rédiger une nouvelle constitution. Fort bien, mais avec quoi en vue? Est-ce simplement pour une question de fiscalité, de taxation, de prise d'argent dans les poches du contribuable? Ou bien serait-ce, une bonne fois, avec l'objectif de restituer au peuple ce qui lui appartient, son crédit, au peuple de l'État du Québec, le crédit du Québec, comme au peuple de chaque province, le crédit de sa province? Si l'on est contre la centralisation des pouvoirs à Ottawa, et par Ottawa au cerveau financier international, que l'on commence donc par se soustraire à l'instrument primordial de la centralisation, au contrôle du crédit qui fasse plier à toutes les volontés des contrôleurs privés, des contrôleurs privés de l'argent et du crédit. Même nos séparatistes, avec toutes leurs déclarations d'indépendance, ne semblent pas avoir conscience de la dépendance dans laquelle nous maintient le contrôle actuel du crédit financier. Il est bien plus urgent de se séparer de la dictature internationale de l'argent que de se séparer des autres provinces du Canada. Que devient l'indépendance politique quand la vie économique de tous les jours est sous la complète dépendance d'individus non élus qui, d'ailleurs, prennent leur inspiration et leurs directives de non élus internationaux et qui se font servir par les élus du peuple? Montréal Matin du 18 février rapporte la déclaration suivante, faite à l'hôtel Queen par le chef séparatiste Marcel Chaput. Nous croyons, dit-il, au crédit comme force de développement économique. Très bien, mais avec cette force laissée aux mains des contrôleurs de l'argent et du crédit, M. Chaput, à ceux qui dominent les gouvernements comme les populations, au bénéfice de qui seront le développement économique qui endette la population à mesure qu'elle crée de la richesse? Quelle sorte d'indépendance cela signifierait-il? Et le parti qui se donne le nom de crédit social, qui doit bien connaître quelque chose en fait de crédit, que sait-il, que cherche-t-il pour s'affranchir de la tyrannie du système financier actuel? Ce n'est certainement pas à ses dirigeants qu'il faut demander la décentralisation financière. C'est pas à eux qu'il faut demander le Québec, mettre chez lui, l'Ontario, mettre chez lui, le Nouveau-Brunswick, mettre chez lui. Oh non, le mot d'ordre du parti Cowett-Thompson est devenu « On to Ottawa », pas seulement de la part de la section albertaine du parti, mais de Cowett lui-même et de ses suiveux. Rappelons d'abord à ce sujet que le premier chef des créditistes albertains, Eberhardt, a toujours tenu pour le contrôle du crédit provincialement. De 1939 à 1937 à 1939, son gouvernement fit adopter plusieurs lois provinciales dans ce but, remplaçant par d'autres celles qui se faisaient bloquer à Ottawa ou bien dans les cours de justice. En 1939, à cause de la guerre, il jugea devoir suspendre cette lutte. Il mourut pendant la guerre. Son successeur Manning, en 1947, capitula complètement. Et le « On to Ottawa » naquit de cette capitulation. Cela voulait dire de la part de Manning, « Eberhardt avait tort et c'est Ottawa qui a raison. » Eh bien, un parti qui capitule devant Ottawa capitulerait encore bien plus facilement devant des puissances qui dominent Ottawa comme elles dominent Washington et les autres gouvernements, même considérés comme souverains. Mais, dira-t-on, il y a la question de constitution intéressante. Et ensuite, qu'est-ce que pensait Douglas, le chef, le fondateur de l'école créditiste? Qu'est-ce qu'il pensait de ce « On to Ottawa » Je vous en parlerai une autre fois, mesdames et messieurs.
Mes chers amis, nous venons d'entendre M. Louis Hébin, le directeur général du journal Vert Demain. Vous connaissez l'adresse du journal Vert Demain, votre cher journal Vert Demain. C'est Journal Vert Demain, Montréal. Tout le monde s'abonne maintenant. Vous